Ne quittez pas l'écoute. Dans un instant, vous allez entendre le maréchal Pétain.
Le 24 décembre 1943, le chef de l'État français s'exprime à la radio.
Mes chers amis, Noël, fête de l'amour, et des Français revenus au plus mauvais jour se querellent, se haïssent, bafouent l'autorité, exercent des représailles, se livrent au pillage et au sabotage, répandant ainsi par des attentats inqualifiables une véritable terreur.
En cette fin d'année 1943, le vieux maréchal en est réduit à vanter l'esprit de Noël contre la menace des esprits rebelles. Aux yeux de Philippe Pétain, il y a d'un côté la fête de l'enfant Jésus et de l'autre, celles et ceux qui gâchent la fête, les hommes et les femmes de la Résistance, les mauvais Français.
Moi, je n'aime pas les cambrioleurs et les pillards. Et il y avait dans mon pays une bande de cambrioleurs et de pillards, c'était l'armée nazie. Et puis j'aime encore moins les gens qui aident les cambrioleurs et les pillards, et c'était le gouvernement de Vichy.
Fin décembre 1943, le monde occidental célèbre la fête de la Nativité. Et dans chaque camp, on se persuade que c'est le dernier Noël de guerre.
Notre Père, Sainte Mère de Dieu, donnez-moi du pain, donnez-moi du pain.
En France, la société est épuisée par 3 ans d'occupation nazie et la trêve des confiseurs n'est qu'une fiction entretenue par le régime de Vichy. Pendant qu'on distribue des jouets aux enfants de prisonniers, on déporte les Juifs de France. Pendant qu'on chante à la messe de minuit, on torture les résistants.
Si tu ne dis pas la vérité, ça va te coûter très cher.
Et par ailleurs, tout le monde crève de faim. Quant à Pierre Laval, il prie pour que les nazis reprennent pied sur les champs de bataille.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
Et durant ces fêtes de fin d'année, les destins croisés de nos 5 femmes ont été chahutés eux aussi par la marche de l'histoire. Alors, à quoi ressemble cette nuit de Noël 1943 pour nos 5 personnages? Où sont nos 5 résistantes et comment vivent-elles cette veillée du 24 décembre 1943? C'est la trame de ce nouvel épisode.
Ce que la Française supporte moins que tout autre, c'est l'ennemi chez elle. C'est de voir chez elle celui qu'elle n'y a pas invité. On ne s'impose pas chez une femme française.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Résistantes. 7e épisode, il est minuit, chrétien.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Voyons, madame, vous, qu'est-ce que vous faisiez?
Moi, je distribuais des tracts et je fabriquais des fausses cartes d'identité.
J'ai fait des transmissions de consignes pour parachutage, des organisations maquis.
Vous avez posé vous-même les pains de plastique?
Avec des détonateurs que j'avais fabriqués moi-même parce qu'on en manquait.
Quelle était la raison qui vous animait?
C'était pour sauver son pays.
Le récit commence en fin d'après-midi, le vendredi 24 décembre 1943. Devant son poste à Galène, Pierre Laval écoute les vœux de Noël du maréchal Pétain sur Radio Vichy.
Noël, fête de la famille. Dans les camps, plus d'un million des nôtres ont le cœur meurtri par l'épreuve d'une longue séparation.
Les prisonniers de guerre, un enjeu pour l'opinion.
Je pense à tous ces foyers où manque la présence protectrice du père, vers lequel sont tournés tant de visages d'enfants, tant de regards d'épouses et de mères.
De son côté, Radio Paris pratique le même exercice. Le speaker a une pensée pour les légionnaires français qui luttent aux côtés des nazis contre les soldats soviétiques sur le front russe.
Noël ! Tandis que toute la chrétienté s'apprête à célébrer la naissance de l'enfant divin,
Tournons nos pensées vers ceux qui, dans le blizzard et le froid, combattent pour protéger notre vieille civilisation d'une totale désagrégation.
Et puis, le speaker collaborationniste ne peut oublier non plus ceux qui travaillent en Allemagne.
Pensons aussi à nos ouvriers qui seront loin de leur chez eux, loin de leur pays, en ces heures où il fait bon être dans la chaude intimité du foyer. Mais combien de ces foyers sont aujourd'hui détruits? Ces enfants ne pourront-ils mettre leurs souliers dans la cheminée? Le Secours National a pris la place du Père Noël et chaque enfant de France aura son jouet.
Les collaborationnistes parisiens et le régime de Vichy ont tout prévu. Il y aura des jouets à Noël.
Les jeunes des équipes nationales n'ont pas épargné leur peine. Des milliers de jouets ont été fabriqués par eux.
Et pour distribuer les jouets aux enfants parisiens, on a organisé au Grand Palais un gala de Noël. Avec un spectacle de cirque des frères Fratellini, et bien sûr, on a envoyé sur place un reporter pour la propagande sur les ondes.
Et maintenant, le spectacle de cirque est fini, et c'est un moment bien attendu, celui de la distribution des jouets. Les jouets sont distribués au théâtre, tous les fauteuils ont été enlevés, au centre de la salle trône un magnifique sapin de Noël, et tout autour, les stands. Il y a là tellement de Père Noël, tellement de gentilles et accortes jeunes filles qui distribuent les jouets aux enfants, que les enfants ont tout le temps de choisir leur joujou, celui qui leur plaît. Pas d'affolement, les jouets sont répartis suivant les âges et les enfants peuvent hésiter, tergiverser. Ils sont sûrs de partir avec le jouet qui leur plaira. Eh bien, nous allons maintenant sortir pour en guetter quelques-uns.
Quelques gamines s'avancent vers le reporter.
Et voici trois petites filles qui ressortent les bras pleins de jouets. Dis-moi, comment t'appelles-tu ?
René Lambinet.
Tu as un père en Allemagne ?
Oui.
Est-ce que tu lui as dit que tu irais au Grand Palais chercher des jouets ?
Oui, qu'il ait bien été content.
Ben oui, je le comprends. En effet, c'est à toi ce nain jaune et ce petit chariot ?
Oui.
Et puis à la petite sœur ?
Il y en a ma sœur.
Eh bien, vous êtes contentes toutes les deux ?
Oui.
Et toi, comment t'appelles-tu ?
Simone Janisson.
Et tu es contente, toi aussi, de ton petit chariot ?
Oui.
Très bien, tu as un père, un frère en Allemagne ?
Deux frères.
Deux frères. C'est ta petite sœur, elle ?
Oui.
Et toi, qu'est-ce que tu as eu ?
Moi, j'ai eu un jeu de chevaux et un jeu de puces.
Tu es contente d'avoir un jeu de chevaux
oui.
et un jeu de puces ? Je crois que tu vas t'amuser, ça fait deux animaux très différents, tu pourras bien rire. Merci,
oui.
ma petite fille, mais maintenant, va-t'en jouer.
Et voici donc beaucoup de joie que celle de tous ces enfants, et beaucoup de joie, n'est-ce pas, méritée, et qui nous fait à tous du bien au cœur.
Quand on écoute tous ces reportages de Noël, on prend conscience à quel point le régime de Vichy était une fiction, aux antipodes de la réalité du pays sous la botte des nazis. Une comédie alimentée par le chef de l'État lui-même.
Noël, fête de la nativité, et la mort plane sur le monde entier. Dans le malheur qui nous accable, tendons-nous des mains fraternelles. Écoutez un homme qui n'est là que pour vous et qui vous aime comme un père.
Pendant que le régime de Vichy joue à célébrer Noël, où se trouve Mila Racine, notre première résistante, durant cette nuit du 24 décembre 1943 ? Elle est en prison, au fort de Montluc, à Lyon, arrêtée, souvenez-vous, avec son coéquipier Roland Epstein, pour avoir aidé des enfants juifs à franchir la frontière suisse à Annemasse. Faisons un retour en arrière. D'abord, que leur est-il arrivé après leur arrestation en Savoie le 21 octobre 1943 ?
Roland, a priori, subit des interrogatoires musclés. Mila, non, elle est interrogée, mais a priori pas battue.
Zoé Grimbert, historienne.
Et dans ces jours-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reçoivent la visite du maire d'Annemasse, qui est résistant, qui plus tard est fait juste parmi les nations, et qui parvient à sortir des lettres de Mila de la prison.
Fin octobre 1943, Mila est détenue dans un hôtel. L'hôtel Pax à Annemasse, réquisitionné par les Allemands pour en faire une prison de fortune. Et elle y est en compagnie de toutes les victimes juives de ce coup de filet.
Vous êtes juif ?
Je suis pas juif.
Haben Sie den Eindruck, dass Mademoiselle Jüdin ist?
Vous pensez que mademoiselle est soi?
Fahren Sie mit Ihrem Zeigefinger über die Nase von mademoiselle.
Passez votre doigt sur le nez de mademoiselle.
Cela dit, Mila Racine n'a pas été identifiée comme juive. Aussi, écoutez bien la lettre qui va suivre. Quand elle écrit à sa famille, Mila fait diversion, sachant très bien qu'elle sera lue par la Gestapo. Les hôteliers dont elle parle, ce sont les tenanciers, donc ses gardiens.
Mila Racine, dans la prison du Pax à Annemasse, le 25 octobre 1943. Mes hôteliers sont antisémites et ont renvoyé tous les juifs aujourd'hui, ce qui fait que nous sommes restés à quelques-uns ici. J'espère que vous allez tous bien. Et ma seule peine est l'idée que vous vous inquiétiez pour moi. Je vous embrasse tendrement. Marie-Anne.
Mila Racine signe Marianne. C'est sa fausse identité. Par ailleurs, le courageux maire d'Annemasse, Jean Defaux, lui a réservé une surprise.
Il parvient à faire entrer dans la prison sous une fausse identité, bien sûr, Simon Lévite, que Mila connaît donc bien, et le frère de Mila, Emmanuel Racine. Puisqu'Emmanuel Racine était, a priori, membre de ce groupe de passage des enfants. Et donc Mila voit son frère et Simon Lévite, ainsi que le maire d'Annemasse, dans la prison.
Souvenir de Jean Defaux, maire d'Annemasse, 1989. Mila, quelle belle jeune fille c'était. Avant de partir, elle avait écrit sur la porte de sa cellule un petit quatrain dont je me rappelle le sens. Ami qui passera, qui sera un jour dans cette cellule, quoi qu'il puisse arriver, conserve toujours confiance et sourire. C'est pour la France. Mila Racine, dans la prison du Pax à Annemasse, le 25 octobre 1943. Mes très chers, je viens de recevoir le colis qui m'a fait d'un grand plaisir. Je viens d'avoir une conversation très gentille avec mes hôteliers. Comme je cherche du travail, ils m'ont conseillé de partir comme travailleuse libre en Allemagne, en me certifiant que j'y serais bien. Mais comme je leur ai dit que cela ne me tentait pas de quitter mon beau pays, ils ont compris, étant eux-mêmes patriotes.
Avec ces lettres, Mila Racine assoit sa couverture de française non-juive. Alors certes, elle évite ainsi la déportation, mais pas la détention, dans une nouvelle prison où elle va passer la nuit de Noël.
Alors, avec Roland, ils sont envoyés à Montluc, une prison tristement célèbre. Les deux évitent l'envoi à Drancy, qui signifiait en fait la déportation à Auschwitz.
Montluc, c'est à Lyon.
C'est une prison qui est connue pour sa violence. Et les 2 mois qu'ils y passent sont extrêmement difficiles. Cela dit, une chose qu'il faut noter, c'est le groupe d'amis que Mila se fait à Montluc. Elle rencontre 4 autres jeunes femmes à qui elle ne dévoile pas sa véritable identité. Elle ne dit pas qu'elle est juive, elle ne prend pas ce risque. Mais elle crée avec ces 4 jeunes femmes un lien très important pour la suite de sa vie et pour le soutien moral que ça représente.
Pendant que Mila Racine croupit dans sa cellule à Lyon, à Paris, la distribution des jouets se poursuit.
Arbre de Noël encore, mais cette fois à la préfecture, où les enfants de la police parisienne sont les hôtes du préfet de police et de Madame Bussière.
Le préfet de police de Paris, Amédée Bussière, au service des Allemands, est évidemment au courant que la nièce du général de Gaulle passe son réveillon de Noël dans une cellule de prison à Fresnes. Rappelez-vous, Geneviève de Gaulle a été arrêtée à Paris, dans une librairie, le 20 juillet 1943, par le gestapiste français Pierre Bonny.
Asseyez-vous, madame.
Alors, que lui est-il arrivé dans la foulée de son interpellation?
Bonny va l'emmener d'abord rue Lauriston, où les SS français sont logés et vont l'interroger.
l'historienne Frédéric Naud-Dufour.
Elle est battue, elle est jetée par terre. Elle explique que le type qui la jette par terre avait de grosses mains, qui lui donnait des claques très très fortes. Elle explique avoir été incapable d'entendre pendant plusieurs jours et avoir gardé une gêne à l'oreille. Et elle a ces mots assez désarmants où elle dit par la suite, dans son témoignage, « Je n'ai pas été torturée ».
Moi, franchement, j'ai jamais été torturée.
Geneviève de Gaulle, 1995.
J'ai été, giflée violemment, jetée par terre, donnée des coups de pied. Moi, c'est pas ce que j'appelle la torture. Pour m'impressionner, m'intimider. Mais j'ai eu des camarades torturés, j'ai vu des torturés, j'ai entendu les cris des torturés. Enfin, c'est comme une chose assez terrible.
Alors moi, je ne sais pas où commence la torture et où elle finit, mais elle arrive à surmonter ça en considérant qu'elle n'a pas été torturée. Et puis après cela, elle est emmenée à la Gestapo, rue des Saussets, et enfin à la prison de Fresnes, qui comporte un quartier pour femmes, et qui va être, pour ces femmes résistantes, une transition entre le monde libre et puis ce qui va être la déportation. Mais ça va être un premier lieu d'apprentissage de la résistance en captivité, puisqu'il va y avoir des liens qui se développent entre les prisonnières, qui vont réussir à communiquer entre elles et à se connaître avant même de se voir. Elles se parlent de cellule à cellule par des tuyaux. Par exemple, c'est par un tuyau, c'est quand même très amusant, que Geneviève va parler pour la première fois avec Germaine Tillon, qui est incarcérée, elle, depuis octobre 42. Elle va retrouver aussi à Fresnes sa tante, Marie-Agnès Caillot, la sœur du général de Gaulle, qui y est depuis mai 1943 pour résistance. Et puis d'autres amis aussi qu'elle va retrouver, notamment Jacqueline Perry, qui va arriver à Fresnes un petit peu après.
Moi, j'étais dans une cellule, j'ai été très peu de temps dans une cellule seule, j'ai été tout de suite après dans une cellule où on était... Au début 5, après 6, c'est pas très grand, les cellules de Fresnes.
Geneviève de Gaulle, 1995.
Alors, il y avait une grande fenêtre, donc avec de la lumière, quand il y avait du soleil. Et puis, on correspondait par les fenêtres, on se criait. Nous étions du côté de la campagne, alors. Il y avait des gens qui venaient nous parler, des familles, quelquefois.
Ce que l'on sait, là, c'est que de Gaulle est mis très vite au courant de l'arrestation de Geneviève à ce moment-là et qui va en prévenir le reste de la famille. Mais c'était aussi en prison à Fresnes que Geneviève de Gaulle apprend que Charles de Gaulle soutient son action de résistance par Jacqueline Perry, qui a eu le temps d'avoir cette information avant d'arriver en prison. Et on peut dire qu'elle commence son parcours de prisonnière confortée par cet appui du général de Gaulle qui sait ce qu'elle fait et qui la soutient.
Résumons. Geneviève de Gaulle et Mila Racine, qui sont alors deux jeunes femmes de 20 ans, passent donc l'une et l'autre, la nuit du 24 décembre 1943, en prison. D'un point de vue plus général, qu'est-ce qu'on peut dire de la répression des femmes résistantes sous l'occupation ?
Ce qui, moi, me semble devoir toujours être rappelé, c'est que le système patriarcal vaut aussi pour ceux qui manient la répression.
L'historienne Catherine Lacour-Astol.
Donc, les femmes sont parfois moins arrêtées parce qu'elles bénéficient d'un présupposé d'innocence. Quand elles le sont, on a très souvent une disparité dans la peine prononcée à acte égal entre les femmes et les hommes. Donc elles sont souvent moins lourdement condamnées que ne le sont les hommes.
Catherine Lacour-Astol a mené une grande enquête historique sur la répression des femmes sous l'occupation dans le département du Nord. Avec quelles conclusions ?
J'avais essayé de montrer en vertu de quoi et au nom de quoi on arrêtait telle personne ou telle autre. Et très clairement, il y a une catégorie qui n'existe quasiment que pour les femmes, c'est la catégorie complice. Les hommes sont auteurs. La question ne se pose pas. Les femmes, a priori, elles sont complices. Donc si on arrête un couple, initialement la femme bénéficie de cette irresponsabilité qui serait la sienne, qui fait d'elle une complice. On a vraiment cette difficulté initiale de l'occupant à considérer qu'une femme puisse être dans l'action à l'égal d'un homme. Quand, dans le regard de l'occupant, il est très clair que l'occupant a affaire à une femme qu'il qualifie de responsable, qui est actrice de son action, qu'il a décidée et qu'il a faite. C'est particulièrement vrai pour les militantes communistes, mais pas que. Donc quand la responsabilité effective est attestée pour l'occupant, alors là, par contre, l'identité, le sexe, s'estompe. Et on rentre dans un schéma qui est tout à fait autre, c'est-à-dire qu'on n'est plus un homme ou une femme, on est un ennemi de l'occupant, et l'ennemi de l'occupant, les distinguos et la mansuétude potentielle à l'égard des femmes, là, ça ne joue plus. Ça ne joue plus du tout. Donc on peut avoir, en termes d'interrogatoire, une similitude dans l'horreur.
Torture, évidemment.
Voilà. Et on peut avoir des mises à mort, y compris à l'encontre de femmes.
Pour clore cette première partie, Geneviève de Gaulle et Mila Racine sont bien considérés comme des ennemis par l'occupant. Et par conséquent, en cette nuit de Noël 1943, elles ont du souci à se faire. En décembre 1943, à Vichy, vous avez compris que Philippe Pétain célèbre Noël à sa manière.
Une fois de plus, je vous adjure de penser par-dessus tout au péril de mort que courrait notre pays si triomphait le communisme et sa barbarie païenne. Croyant, sceptique ou indifférent, accueillez ce soir cet ultime avertissement. Mais ne finissons pas cette nuit de Noël sur des si douloureuses perspectives.
Minuit, chrétien.
Jusque dans les plus petits villages, les âmes communient dans la même pensée. Ici, en Savoie, c'est la présentation de l'enfant Dieu.
Radio Vichy, 1943.
Là, les bergers de Provence, portant dans leurs bras la plus jeune brebis du troupeau, vont s'agenouiller devant la crèche, renouvelant le geste des bergers de Palestine.
Durant cette nuit de Noël, depuis Alger, le général de Gaulle a lui aussi choisi les ondes pour répondre aux vœux de Philippe Pétain.
Ce soir de Noël, que chacun de nous pense aux autres Français et aux autres Françaises qui, comme lui, souffrent pour la France, luttent pour la France, espèrent en la France, qu'il y pense amicalement, fraternellement.
En ce 24 décembre, à la radio, de Gaulle évoque la fraternité et le combat contre les ennemis de la France.
Que chacun de nous porte son âme vers nos soldats, nos marins, nos aviateurs, aux prises avec l'Allemand sur le sol d'Italie, sur toutes les mers du monde, dans les ciels de Méditerranée, de Russie, d'Angleterre, ou qui s'apprêtent à gagner à leur tour les camps de bataille. Vers nos combattants de France qui luttent comme ils peuvent, tant qu'ils peuvent, sous le joug de l'ennemi et de ses collaborateurs.
C'est dans cette Algérie libérée par les Alliés que Simone Mathieu passe son réveillon de Noël 1943. Et elle est sans doute entourée de femmes, car on sait qu'au sein des services secrets gaullistes, là où est affectée la capitaine Mathieu, on dénombre trois fois plus de femmes que d'hommes. Pour quelle raison ?
La raison principale, c'est que les services secrets, c'est une administration. C'est une très vaste administration paperassière dans laquelle on a besoin d'un énorme personnel subalterne.
Sébastien Albertelli, historien.
Il y a trois fois plus de femmes que d'hommes dans les services secrets, mais tous les postes de décision, sans aucune exception, appartiennent à des hommes. Les femmes sont dactylos parce que les renseignements qui arrivent de France par les réseaux de renseignement, par des réseaux d'espionnage, etc., doivent être dactylographiés, reproduits en des centaines d'exemplaires pour pouvoir être diffusés, parce que dans les services secrets, on crée un énorme fichier de contre-espionnage pour essayer de ficher les gens en France et essayer de repérer ceux qui sont dangereux, ceux qui risquent d'être des agents doubles, etc. Et ce fichier, il est alimenté par des cartes qui sont elles-mêmes dactylographiées. Donc, il faut des femmes pour les dactylographier, des femmes pour les classer. Voilà, il y a tout un personnel de petite main, si on peut, voilà, qui est indispensable au fonctionnement des services. On trouverait probablement des proportions assez comparables dans tout type de service administratif.
À Alger, Simone Mathieu a sans doute vu passer une fiche de renseignement sur Jean Hérold de Pakis, journaliste et collaborationniste notoire qui sévit sur Radio Paris.
La guerre ne s'est pas arrêtée aux portes de Noël. C'est sans doute dommage, mais c'est ainsi et nous n'y pouvons rien. Il nous faut donc faire abstraction de nos sentiments et de nos préférences et comme tous les autres soirs, à quelques heures cependant de la promesse de la paix aux hommes de bonne volonté, vous entretenir de la guerre.
Dans sa chronique de Noël, consacrée à la guerre, Jean Hérold de Pakis s'étend sur le front de l'Est, comme un espoir encore possible pour les troupes allemandes. Mais il ne s'attarde pas du tout sur le Proche-Orient, où la Wehrmacht a été vaincue et chassée par les Alliés. Désormais, on ne se bat plus dans le désert. Et en ce soir de Noël 1943, il est fort probable qu'au Caire, René Davély ait chanté pour la communauté francophone à l'auberge des Pyramides. Enregistrement de René Davély sur un disque 78 tours.
J'écris pour vous, proche ma tranchée, ces bleus myosotis, sale fleur d'homme. Qu'avril pérennette, on veut les enfants.
Autour de moi, dans l'atmosphère pénible causée par les épreuves de notre pays, je sentais que les Égyptiens et les colonies étrangères d'Égypte conservaient leur foi en la France éternelle.
René Davély, chanteuse expatriée en Égypte depuis 1939, occupe une place à part dans notre galerie de portraits de ces femmes en guerre. Au fond, peut-on réellement la qualifier de résistante ?
Il n'y a pas plus étrange que le parcours de René Davély pour définir la résistance. Pourquoi ? Parce qu'elle se place aux limites, aux frontières.
Olivier Loube est historien.
Très clairement, si on prend les définitions de ceux qui ont rédigé, par exemple, le dictionnaire historique de la résistance, je pense à Pierre Laborie, elle n'est pas une résistante parce qu'il lui manque un élément. À aucun moment, elle n'est en clandestinité. À aucun moment, elle ne s'oppose aux autorités légales du territoire dans lequel elle est. Au contraire, elle soutient l'action de guerre des Britanniques, et d'ailleurs elle est reconnue par eux. Il y a beaucoup de transgressions dans la vie de René Davély, mais pas celle-là. Elle s'oppose, elle le fait de façon consciente, elle a un engagement contre, mais il n'est pas transgressif par rapport à l'ordre établi. En ce sens-là, ça n'est pas une résistante.
Certes, René Davély, qui vit au Caire, ne s'oppose pas aux autorités locales, ce qui pourrait conduire à lui contester le statut de résistante selon les critères établis après-guerre. Mais en réalité, elle n'a aucune raison de se rebeller contre ces autorités. Car à l'époque, l'Égypte est encore sous forte influence du Royaume-Uni, qui compte parmi les alliés. Cependant, elle a fait le choix très tôt d'entrer dans les forces françaises libres. Et en faisant cela, elle rompt bel et bien avec le régime de Vichy, représenté diplomatiquement au Caire jusqu'en 1942.
Et si être résistant, c'est dire non, à des moments où on pourrait se dire « tiens, l'Égypte, c'était facile », en 40, ça n'est pas vrai, c'est pas si vrai que ça. Donc le choix de dire non à ce qu'est le régime officiel, incarné par l'ambassadeur de France au Caire même, en ce sens-là, elle est dans tous ces prolégomènes de résistance, bien sûr.
René Davély était donc une Française libre, résistante.
Quelle belle journée ça serait, s'ils n'étaient pas là.
Revenons maintenant, en France occupée,
où le maréchal Pétain poursuit son discours de Noël à la radio.
Mes chers amis, pour la quatrième fois, la France célèbre dans l'épreuve et la tristesse un Noël de guerre.
Minuit chrétien.
Entendez votre chef qui ne veut être dans le grave et solennel silence de cette veillée qu'un Français qui souffre comme vous, avec vous.
Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne son mort.
Au moment où le vieux maréchal évoque sa souffrance, Lucie Aubrac, notre cinquième personnage, est en cavale dans le Jura. À Villevieux précisément, planqué dans un château qui appartient à trois sœurs qui détestent Philippe Pétain. Un château où Lucie Aubrac passe son réveillon de Noël avec un aviateur anglais et avec Raymond, qu'elle a réussi à arracher des griffes de Klaus Barbie le 21 octobre. Que s'est-il passé dans leur vie depuis cette libération réussie deux mois plus tôt ?
Alors les longues semaines qui suivent le 21 octobre 1943 sont peut-être les semaines les plus pénibles que le couple ait vécues entre 1940 et 1944, parce que leur morale est au plus bas.
Laurent Douzou, historien.
Il faut dire que dans l'opération du 21 octobre 1943, lui a été blessé. Un des groupes francs a tiré une balle qui lui a traversé la joue, donc il a fallu le soigner. Ensuite, c'était un homme très ébranlé par sa détention et les conditions de sa détention à Montluc et ce qu'il avait vu à Montluc, les interrogatoires qu'il avait subis. Donc on peut dire que son équilibre psychologique était quand même très fortement perturbé. Elle était enceinte et elle trouvait qu'on mettait beaucoup de temps à les exfiltrer. Pourquoi est-ce qu'on a mis tant de temps? Mais tout simplement parce que la France combattante qui organisait leur enlèvement, était dépendante des Britanniques. Les Britanniques n'avaient pas comme priorité absolue d'exfiltrer le couple Aubrac.
Lucie Aubrac, 1992.
Vous savez, c'était une telle expédition pour un avion anglais d'arriver par les nuits de pleine lune sur une prairie, sur un plateau, au diable Vauvert, pour embarquer des gens clandestins, que eux, c'était important qu'ils aient Raymond Aubrac, parce que c'était le seul survivant qui pouvait parler de Caluire. À ce moment-là, les autres étaient déportés. Il y avait que lui qui pouvait raconter ce qui s'était passé, puis qui connaissait la Gestapo. Mais la bonne femme, elle était enceinte de... Et puis elle avait un petit garçon, c'était pas évident.
Et donc, il a fallu attendre, ça a duré dans des conditions de grande précarité. Alors, c'était très difficile, d'autant que les parents de Raymond avaient été arrêtés et qu'il savait, lui, que ça pouvait laisser présager le pire.
Raymond, sois courageux. Tes parents viennent d'être arrêtés par la milice.
Donc, on sait par une lettre qu'il écrit à Emmanuel Dacier de la Vigerie en janvier 1944... que l'état psychologique du couple au début de l'année 1944 est très détérioré. Qu'ils ont beaucoup de mal à traverser cette passe.
Je t'aime, pleure pas.
Quand on lit le récit de Lucie Aubrac de cette vie clandestine dans le Jura en automne 1943, on voit effectivement cette angoisse qui les étreint, cette fatigue, cette solidarité aussi quand même, Laurent Douzou, entre les résistants français qui veulent absolument les sortir de là quand même.
Alors oui, il y a la fatigue, le stress très intense. Il y a vraiment un stress post-traumatique dans l'affaire du 21 octobre 43. C'est-à-dire monter une opération comme ça, c'est pas rien, et ça laisse des séquelles. Et en même temps, c'est vrai qu'ils vont éprouver une solidarité extraordinaire de la part de gens qui ne connaissent ni Ève ni d'Adam, mais qui prennent le risque de les héberger. Comme il faut prendre des précautions, ils passent d'un logis à un autre, donc ils voient des gens très différents. Il est certain que ce qu'ils expérimentent là, c'est ce que Jean-Pierre Vernant appelait l'amitié. La filia grecque, c'est-à-dire que entre les résistants, quel que soit leur rôle, quelles que soient les responsabilités qui leur échoient, il y a une solidarité qui est extrêmement forte et qui peut quand même permettre de surmonter bien des passages à vide. Et ça, l'un comme l'autre ont souligné à quel point ils avaient été sensibles à cette chaîne de solidarité de gens qu'ils ne connaissaient pas du tout et qui avaient pris des risques pour leur permettre de partir.
Lucie Aubrac dans Cette exigeante liberté, 1997. La solidarité des femmes à mon égard fut extraordinaire. Elles se sont toutes entendues pour me trouver de la layette, taillant dans les chemises des hommes pour coudre une brassière, alors que le fil était si rare, détricotant des pullovers, défaisant des dessus de lits de coton pour faire des langes, débitant des draps. Chaque fois qu'on tuait un lapin, on gardait sa peau pour en faire une couverture pour les enfants. Je n'ai jamais oublié. Aux yeux de ces femmes si courageuses, j'étais une héroïne, alors qu'elles-mêmes étaient extraordinaires.
Il reste à dire aussi que ce couple, à partir du 21 octobre 43, dans la Résistance, il a une dimension légendaire. Parce que l'action qui a été accomplie le 21 octobre 43, elle a des échos considérables dans la Résistance. Parce que quand même, on a ridiculisé les Allemands, et ça, c'est pas rien. Donc ça fait que le couple a une aura très très forte, et quand ils arriveront à Londres, ils seront salués comme des héros.
Oui, il faut le redire, hein, Laurent Dozou, parce que en effet, ils sont devenus l'un et l'autre iconiques après-guerre, oui. Mais cette évasion mise sur pied par Lucie Aubrac, évasion réussie de la libération, d'une troisième fois d'ailleurs de son mari, ça leur confère un statut de héros tout de suite, hein, dès l'automne 43.
Alors, dès l'automne 43, dans la clandestinité, à Londres, ils ont un relais qui s'appelle Emmanuel Dacier de la Vigerie, qui chante les louanges du couple. Et quand ils vont arriver en février 1944, Lucie notamment sera vraiment surprise par l'aura qui l'entoure. Parce qu'elle est accueillie par des gens qui sont des vrais combattants et qui lui montrent un respect qui la surprend elle-même.
Alors justement, ils ont réussi finalement à prendre un avion, hein, de nuit, au départ de la France pour Londres. Ils vont atterrir à Londres le 8 février 1944. Lucie Aubrac accouche d'un deuxième enfant, une petite fille, Catherine, le 12 février 1944, quatre jours après l'arrivée à Londres. On l'imagine prendre l'avion de nuit, enceinte de 9 mois. Faut imaginer ça, Laurent Dozou, parce que c'est complètement fou en vérité. Hein.
Alors c'est fou parce qu'ils ont pris un avion. Mais c'était pas EasyJet, hein. Ils ont pris un Hudson de plus de 5 tonnes qui s'est embourbé dans le terrain. Il a fallu appeler les paysans du village à côté, tirer avec des bœufs pour désembourber l'avion. Elle avait des contractions, on a calmé en lui administrant une piqûre. Enfin, c'était des conditions parfaitement dramatiques dans lesquelles ils sont partis. Et elle arrive le 8 février, elle accouche le 12 de Catherine, dont le deuxième prénom est Mitraillette. Et c'est vrai que il y a là un moment où la tension enfin baisse totalement. C'est-à-dire que non seulement elle accouche, mais ils se trouvent en lieu sûr. Or, c'est une situation qu'ils n'ont pas expérimentée depuis le début de la guerre.
On a gagné.
Quand commence l'année 1944, Lucie Aubrac a donc enfin rejoint Londres. Simone Mathieu est encore à Alger et René Davély au Caire. Quant aux deux autres, leurs chemins vont se croiser au camp d'internement de Royal Lieu à Compiègne. En effet, à la mi-janvier 1944, Geneviève de Gaulle quitte la prison de Fresnes pour être transférée dans ce camp de transit nazi. Dans quel état d'esprit est-elle ?
Il y a, je pense, une forme de soulagement. C'est-à-dire, déjà, on quitte la cellule où elles étaient nombreuses. Hein. Elles étaient jusqu'à 6 par cellule.
Frédéric Naud-Dufour.
On quitte une forme d'étouffement, d'entassement et de réclusion. Et on retrouve une forme d'air libre, si on peut dire. Et puis, surtout, on peut voir ses camarades. C'est différent. On est dans des baraques. Donc, il y a cette forme, quand même, de soulagement. Sans doute contrebalancé par une angoisse profonde de savoir qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer désormais. Donc son horizon, on peut le dire, est extrêmement sombre, mais elle ne sait pas, elle ne peut pas savoir ce qui l'attend. Même cette résistante très informée ne peut pas savoir ce que c'est que l'univers concentrationnaire, parce que c'est une réalité à nul autre pareil, dont on ne peut pas déceler l'inhumanité tant qu'aucun rescapé n'est parvenu pour la raconter. Et même quand il y aura des rescapés, ce sera très difficile à croire.
Quant à Mila Racine, après 2 mois difficiles à la prison de Montluc, elle s'apprête à quitter Lyon pour rejoindre elle aussi ce camp de Royal Lieu à Compiègne. et sa sœur Sacha, qui ignore tout de ce transfert, a pourtant un pressentiment. Nous sommes fin janvier 1944.
Avec mon frère, on s'est dit, on a senti quelque chose, on s'est dit, il faut qu'on aille à Lyon.
Sacha Racine, 1997.
On est parti à Lyon avec un colis que j'avais préparé, que je voulais apporter à la prison. Et arrivé à la gare de Lyon, il y avait comme ça beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, beaucoup de soldats allemands. Il y avait quelque chose de bizarre, c'était pas normal. Et on est descendu de notre train et on a commencé à marcher brusquement. On voit dans un coin un train comme ça fermé. Et j'ai dit à mon frère, je vais m'approcher, je veux voir ce que c'est. Et je me suis approché du train. Et j'ai commencé à appeler ma sœur, Mila. Et elle est apparue. C'était le train qui partait en déportation. Et je suis montée dans le train pour l'embrasser. Elle était folle de joie de me voir. Et elle dit, mais comment tu sais? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé.
C'était une voiture plombée? C'était pas encore fermée?
Non, c'était pas encore. C'était un train, ils étaient habillés. Elle était habillée en sport d'hiver parce qu'elle avait ses vêtements en prison.
Et où est-ce qu'ils les emmènent?
Et j'ai appelé mon frère, il est monté dans le train aussi. Et on a bavardé avec. C'était quelque chose d'absolument surréaliste, hallucinant. Et il y avait un soldat allemand qui m'a laissé monter, qui était là. Et on a parlé 10 minutes, et brusquement, le soldat allemand a dit « Raus, raus, Gestapo !» On est descendu vite du train, mais je me suis dit « Mais comment on est descendu, puis on l'a laissé dans le train ?» C'est quelque chose d'ahurissant. Et on est parti, on a vu la Gestapo arriver, les gens gueulaient, et le train est parti. C'est ahurissant.
Elle savait où elle allait?
Non. Elle est passée par le camp de Compiègne. Compiègne, et puis elle a été déportée à Ravensbrück. Mais on ne savait pas qu'elle était juive, ma sœur.
C'est la dernière fois, en fait, que cette fratrie... se voit. Et Mila leur aurait dit, alors bon, c'est un témoignage, leur aurait dit un peu en riant, sans doute pour les rassurer, je pars pour la grande aventure.
Mila Racine quitte la gare de Lyon le 26 janvier 1944. Son train s'arrête d'abord à Compiègne, au camp de Royallieu.
Elle arrive à Royallieu et elle y reste 3 jours. Et par rapport au séjour à Montluc, ça paraît être 3 jours beaucoup plus agréable à vivre, si on peut dire, parce que les conditions de détention ne sont pas du tout les mêmes.
Mila Racine, 1943. Mes chers tous, nous partons aujourd'hui pour l'Allemagne. Le moral est excellent. La bonne humeur règne au camp. Je suis heureuse, si heureuse d'avoir vu Emmanuel et Sacha et d'avoir des nouvelles de Maïpa. Nous nous reverrons bientôt. Bon courage. Je vous embrasse tendrement. Marie-Anne.
Ce qui est troublant sur les grands-pères, c'est qu'on a eu accès à sa correspondance quand elle était incarcérée. C'est vrai qu'elle passe son temps à vouloir rassurer ses proches. On sent qu'elle veut faire bonne figure et aussi rassurer sa famille sur ses conditions de détention. C'est assez prégnant dans ses lettres.
Oui, c'est vrai que dans ces lettres, il y a vraiment un... Alors bon, il y a un langage codé, évidemment, qui ne permet pas tout à fait de savoir ce qu'elle... Elle ne peut pas raconter, de toute façon, les lettres sont lues. Elle ne peut pas raconter tout ce qu'elle veut, mais il y a cette volonté chez elle, mais qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup, beaucoup de personnes incarcérées, cette idée que le moral est bon, qu'on fait face, qu'on n'est pas complètement désespéré. Donc dans le cas de Mila, c'est lié à la volonté, comme vous dites, de rassurer sa famille, notamment ses parents. Elle craint pour la santé de son père. Et elle ne veut pas les inquiéter, et effectivement.
Il ne faut pas oublier que ce camp de Royallieu a été, entre 40 et 45, le lieu de rassemblement de tous les patriotes, de tous les résistants arrêtés par l'ennemi.
Archives ORTF, témoignage d'un homme interné au camp de Royallieu à Compiègne, 1970.
Et ce camp de Royallieu était aussi, pour eux, l'occasion de se retrouver, d'être ensemble, d'avoir la possibilité, malgré la discipline qui régnait dans ce camp, de prendre conscience qu'ils étaient au service de la France libre et indépendante. Royallieu, c'était aussi, pour ces déportés, le dernier passage dans un camp français. C'était pour tous ces déportés les départs vers cette gare de Compiègne. C'était pour eux probablement la dernière image de la France avant leur arrivée dans ces camps que l'on a appelés les camps de la mort, les camps de la misère.
Trois jours après son arrivée au camp de Royallieu, Mila Racine est déportée en Allemagne.
Dans 15 minutes sur l'esplanade.
Elle part le 31 janvier 1944.
Mila fait partie d'un groupe de femmes, 950 prisonnières, qui quittent Compiègne. Et ces femmes se surnomment les 27 000. Alors pourquoi ? Parce qu'on leur a attribué les numéros allant de 27 030 à 27 988. Et Mila a le numéro 27 918.
Dans ce convoi, où elle se trouve aussi, Geneviève de Gaulle porte le matricule 27 372.
C'était un convoi de 1000 femmes. Et 1000 femmes de tous âges, de toutes les régions de France, de toute opinion, de toute classe sociale, de, je sais pas, de tout métier. Enfin, il y avait aussi la moitié des femmes, je veux dire, à cette époque-là, qui étaient sans métier, puisqu'elles ne travaillaient pas.
Geneviève de Gaulle, 1995.
On monte dans un wagon, on nous emmène à la gare, une espèce de voie un peu mise à l'écart de la gare de Compiègne. Mais il faut dire quand même avant que j'avais eu mon petit triomphe, il faut que je rafle, parce que c'était un moment très amusant. Quand on a appelé les noms de ces 1000 femmes, ben évidemment, à un moment donné, on a appelé le nom de Gaulle. Alors là, ça a été une espèce des concerts d'enthousiasme, d'applaudissements. Les gens étaient tellement furieux qu'ils ont lâché leurs chiens, qui n'ont pas mordu, d'ailleurs, je crois, pour nous impressionner. Et je suis passé devant eux avec, vous ne devineriez jamais avec quoi, avec une pipe au bec. Et à un moment donné, j'aimais bien fumer, j'avais pas de tabac. On avait du tabac de pipe parachuté, je ne sais pas comment ça a été procuré. S'il se roulait très mal, alors mes camarades ont dit « t'as qu'à fumer la pipe, il va faire une pipe ». Et quand je suis sorti de Fresnes, on m'a rendu ma pipe et quelques débris de tabac qui restaient, deux ou trois bricoles comme ça, on m'a pas rendu ni mes bijoux ni tout ça, un petit bijou de jeune fille. Mais je me suis dit « voilà, je vais fumer ma dernière pipe en sortant du camp de Compiègne à la barbe des Allemands ». Alors ça, mes camarades s'en souviennent beaucoup. C'est vraiment la dernière pipe que j'ai fumée, parce que je ne suis pas osé au retour me remettre à fumer la pipe. Vous voyez que j'étais pas toujours une jeune fille si bien élevée que ça.
Oui, c'est une scène incroyable. On imagine une scène de film en réalité, tellement ça paraît incroyable. Et pourtant, des fois, l'histoire dépasse la fiction. On est le 31 janvier 44, il doit faire très froid d'ailleurs. C'est l'aube. Au moment de l'appel, quand son nom est prononcé par un soldat, c'est un appel interminable, hein, faut lire les quasiment 1000 noms, toutes les femmes font une ovation au nom de De Gaulle. Et Geneviève a cette phrase, elle dit « Pour mes camarades, j'étais une sorte de De Gaulle en miniature ». Et à son corps défendant, même si en plus elle est une grande résistante et quelqu'un qui s'est engagé, elle est devenue un symbole, elle est devenue un étendard. C'est-à-dire que ce nom, elle le porte, et en plus elle le porte avec noblesse, puisqu'elle défend la même cause que son oncle, et il est comme un signal d'encouragement pour toutes ces femmes, et il est comme un signal de la justesse de leur combat. Il y a une De Gaulle parmi elles, je pense que c'est un réconfort et c'est une force considérable.
Alors ben voilà, je suis arrivée dans mon wagon, bestiaire, on nous a poussé, tant et plus. On avait une énorme tinette, enfin elle nous paraissait énorme, mais malheureusement elle a été vite trop pleine. Une tinette, c'est un espèce de récipient soulagé des besoins naturels. On avait donné un peu de pain avec une espèce de mauvais saucisson très très fort, et donc on a eu très soif très vite. Et on ne pouvait pas s'allonger sur un paille, ni il y avait un peu de paille, ni même à peine s'accroupir en serrant beaucoup les unes contre les autres. Ce fait que le voyage a été très pénible. Tant plus parmi nous, il y avait des femmes âgées, il y avait même une femme enceinte. Il y a eu toutes sortes de choses comme ça. Et puis voilà, bon, on a fait ce voyage pénible qui a duré à peu près 3 jours et 3 nuits, presque 4. Et on est arrivé en pleine nuit, comme ça, les wagons sont enfin arrêtés, apparemment, définitivement, enfin, on ne savait pas. Et on a sauté, on nous a fait sauter, c'était assez haut pour sauter. Il y en a qui ne pouvaient plus bouger tellement ils étaient ankylosés. Je vous dis, il y avait des vieilles. Et on est tombé heureusement sur une espèce de sable. Il y avait des pins, c'était un pays qui avait l'air de sable et de pins. Et puis tout de suite, les cris, les hurlements des SS, les chiens qui aboyaient, on était une espèce de pays perdu, on ne savait pas où on arrivait. Alors, vaille que vaille, ils ont réussi à nous faire mettre Tsofunf, comme ils disaient, c'est-à-dire pas 5. Et puis, la misérable troupe avec des bagages, on avait des petits bagages quand même, on avait rendu des trucs, on avait emporté ce qui nous restait de colis, quand on était accompagné, on avait eu droit à des colis. Et on s'est traîné jusqu'à une espèce de grande porte qui était la porte de l'entrée du camp, avec des projecteurs. C'était en pleine nuit. Et on est arrivé sur ce qu'on appelle après la Lagerplatz, enfin la place principale du camp.
Soldinger Ernestina, Wälder Grünhilda, Pfefferberg Mila, Dresdner Chaya.
Le 3 février 1944, au milieu de 1000 autres femmes, Geneviève de Gaulle et Mila Racine arrivent au camp de Ravensbrück, à 80 km au nord de Berlin. En conclusion de ce 7e épisode, retenez qu'au début de l'année 1944, 3 de nos 5 femmes sont à l'abri à l'étranger, mais que les 2 plus jeunes entrent dans l'univers concentrationnaire. Les mois qui viennent s'annoncent décisifs dans la conduite de la guerre.
Veuillez écouter l'enregistrement des paroles que le maréchal de France, chef de l'État, a prononcées ce soir.
Et alors qu'on évoque de plus en plus un débarquement des Alliés en France, Philippe Pétain, lui, reste fidèle à lui-même.
Nous sommes menacés encore d'une invasion de la France. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? C'est encore un sujet d'inquiétude et un point d'interrogation qu'on se pose. Combien de temps tout cela va-t-il durer? Enfin, il faut se ressaisir.
Quel sera le sort de nos 5 résistantes au milieu des combats de la libération? C'est l'horizon du prochain épisode. Les résistantes. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Anne Brochet, Aurore Clément et Anna Mouglalis. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, La traversée de la nuit. Les Résistantes est un podcast original de France Inter.